France Culture. Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Des bonnes choses qui font aussi dialoguer les cuisines grâce à la présence du chef Maurice Acco, qu'on retrouvera comme chaque semaine à 12h25 pour sa chronique aujourd'hui sur le gratin dauphinois. Mais avant cela, émission patrimoniale aujourd'hui autour d'un anniversaire. Le 1er février 1826, à minuit, soit il y a tout juste 200 ans, disparaissait c'est Jean-Anthelme Briat-Savarin, l'auteur d'un ouvrage devenu culte pour tous les gastronomes, La physiologie du goût, paru juste quelques semaines avant sa mort et qui s'est inscrit durablement dans l'histoire culturelle européenne.
Le 2 avril, jour de la naissance de Jean-Anthelme Briat-Savarin, tous les arbres sont en fleurs et le buget embaume l'aubépine et la jacinthe. Les oiseaux, que Briat-Savarin appréciera tant, rôtis à la broche en automne, chantent la fin des froids durs et construisent leur nid. Les morilles blondes et brunes abondent à la lisière des bois. Les jeunes pissenlits en boutons qui couvrent les prés offrent leur délicate amertume aux amateurs de salades au lardon. Bientôt, quand ils seront plus en chair, il sera à nouveau possible de chasser les plus délectables lièvres de France, selon Briat-Savarin, qui en sera un amateur éclairé. Les truites à chair rose, les brochets à chair d'ivoire et les écrevisses se dégourdissent de la torpeur hivernale dans les rivières qui dévalent du Val-Romais, du Grand Colombier et du Molard de Don. Tous les dons de Comus sont au rendez-vous pour saluer la naissance de celui qui leur rendra, jusqu'à sa mort, un si vibrant hommage. Jean-Anthelme, dit Anthelme Briat-Savarin.
Bonjour Jean-Robert Pitt.
Bonjour.
Nous avons lu là, grâce à Léa Varin, un extrait de votre biographie de Briat-Savarin, le gastronome transcendant, paru chez Talendier en 2024. Vous êtes un grand spécialiste de gastronomie, géographe de métier, membre ou président de nombreuses académies et autres sociétés, et auteur de nombreux ouvrages, à part cette biographie, mais c'est à ce titre-là, évidemment, que vous êtes avec nous aujourd'hui. Et avec nous également, mais à distance, le chef Pierre Gagnère. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci beaucoup. Bonjour. Chef Pierre Gagnère, vous nous faites le plaisir et l'honneur également de participer à cette émission en hommage à Briat-Savarin depuis votre établissement de Dubaï. Bien, je vais commencer avec vous, Pierre Gagnère. Que représente Jean-Anthelme Briat-Savarin pour le chef que vous êtes?
Alors, je... beaucoup, parce qu'effectivement, Il a mis en mots, et vous venez de l'évoquer, vous venez de le lire, l'effet de la cuisine. Mais j'ai un peu honte parce que je l'ai dit souvent, moi la cuisine c'était pas quelque chose qui m'a passionné au départ, et donc je reconnais un peu mon inculture par rapport à cet homme majeur, parce qu'effectivement, il a parlé magnifiquement de la nourriture et de tout ce qui va autour. Mais pendant des années, la cuisine, pour moi, c'était le geste. Et le geste a occulté, effectivement, peut-être la connaissance. Donc, je suis ravi, mais j'arrive vraiment dans cette mission avec beaucoup de, sur la pointe des pieds, avec beaucoup de modestie, parce que je ne connais pas bien l'œuvre de Briat-Savarin.
Voilà. Eh ben, nous allons en parler avec le biographe de Briat-Savarin qui est à nos côtés, Jean-Robert Pitt. Qui était Jean-Anthelme Briat-Savarin, qu'on confond souvent avec un fromage?
Avec un fromage, oui. Non, le fromage, c'est un nom qui a été donné par un grand fromager parisien, Androuet, à la fin du 19e, et ça a été popularisé dans les années 30. Mais c'est un fromage qui n'existait pas au temps de Briat-Savarin. Briat-Savarin était un magistrat. C'était il a fait des études de droit, il est devenu avocat, il a été député du tiers état aux états généraux, et puis il est resté célibataire toute sa vie. Il a été obligé, parce qu'il est, il a été un peu de tous les régimes, un petit peu girouette, mais pendant la terreur il a quand même été obligé de s'exiler aux aux États-Unis, où d'ailleurs il s'est intéressé beaucoup aux produits gastronomiques de la Nouvelle-Angleterre. Mais c'était pas du tout un cuisinier, c'était un gourmet éclairé. Il aimait chasser, il aimait pêcher, il aimait festoyer avec ses amis. Il avait beaucoup d'amis, c'était un homme extrêmement sociable, et tout au long de sa vie, il a bien mangé, il a invité, il a été invité, mais il n'avait rien écrit sur ce sujet. Les quelques écrits, autres écrits de Brillat-Savarin, en dehors de la physiologie du goût, ce sont des écrits juridiques que, de la fin de sa carrière, à partir de 1800, quand il est membre de la juge à la Cour de cassation, c'est des écrits très sérieux, pas inoubliable. Je pense que personne ne connaîtrait Brillat-Savarin s'il n'y avait eu que ça. Et puis, il était tellement joyeux à table, tellement sociable, tellement convivial, que ses amis, dans les années 1820, ils disent, tu devrais écrire tous les bons moments qu'on a vécu ensemble, toutes les histoires que tu nous as racontées autour, justement, des mets et des vins. Ça nous ferait plaisir d'avoir une trace écrite de tout ça. Et donc, il se met à écrire. Il avait peut-être pris des notes, mais c'est même pas certain. Ce sont ses souvenirs. C'est dans un désordre total, mais dans un style éblouissant, que Balzac admirera énormément, et ça s'appelle, alors il se prétend médecin parce que il s'est intéressé quand il était jeune à la médecine, c'est pas ce qui est non plus inoubliable dans l'œuvre de Brillat-Savarin que la partie physiologique et médicale du livre. Ce qui est inoubliable, c'est la joie de vivre autour de la bonne chère et du bon vin. Et donc, il écrit ce livre, il le publie à compte d'auteur, parce qu'aucun éditeur ne veut publier ça, en décembre 1825.
Quelques semaines avant sa mort.
Voilà. Le 21 janvier 1826, donc à peine un mois après la publication, il va à Saint-Denis. Il est obligé d'assister à la messe anniversaire de la mort du roi Louis XVI, où le président de la Cour de cassation l'envoie. Il attrape une pneumonie. Une semaine après, il est mort, le 1er février 1826 à minuit. Et le livre, ben, il ne sait pas qu'il aura un succès immense. D'ailleurs, la première édition n'est faite qu'à 500 exemplaires. C'est réédité en 1828. Et après, ça devient un best-seller, si on peut dire, en France et dans toute l'Europe, puis après dans le monde.
Un livre très hétéroclite dans sa facture. D'ailleurs, vous écrivez que le sujet et le ton badin de l'ouvrage ne sont a priori guère compatibles avec les austères fonctions qu'occupe Jean Brillat.
C'est pour ça qu'il est anonyme, ce livre. Hein. Pardon. Le livre est publié de manière anonyme parce que il a quand même, même si tout le monde sait à la Cour de cassation qu'il passe pas mal de temps à table et qu'il a invité un certain nombre de ses confrères juges chez lui, ou qu'il a été invité lui-même et qu'il a animé la conversation parce que c'est un très joyeux convive et donc c'est un plaisir de l'inviter. Mais il le publie à compte d'auteur et de manière anonyme.
Alors là, c'est là que c'est très complémentaire du geste dont parlait Pierre Gagnaire, c'est que ce livre n'est pas un livre de cuisine, mais qu'il est une forme de définition très large de la gastronomie comme art et comme pensée de la table.
Oui, c'est un livre qui tourne autour du plaisir de bien manger, de préparer de bons mets, pas forcément très compliqué, hein, quand il donne sa recette d'épinards à la graisse de caille.
Parce qu'il y a quand même des recettes. Il y a quand même des recettes.
Oui, mais c'est pas vraiment des recettes détaillées en disant vous mettez 18 grammes de ça et 30 grammes.
C'est des exemples.
Ce sont des exemples et parfois il détaille un peu. Par exemple, le faisan à la Sainte-Alliance est un plat qu'il a préparé lui-même parce qu'il aime bien, c'est un cuisinier amateur, mais il aime bien cuisiner lui-même, même s'il a un cuisinier chez lui à Paris et une cuisinière à la campagne, dans le Bugey. Mais c'est pas un livre de recettes. Pas plus d'ailleurs que les ouvrages de quelqu'un qui a vécu en même temps que lui et il ne s'aimait pas énormément, c'est Grimaud de la Reynière. Il n'y a pas de recettes non plus dans Grimaud de la Reynière. Il y a des recettes évoquées, mais pas de recettes précises comme dans Antonin Carême, le grand cuisinier de cette période, qui est le cuisinier de l'Empire, où là, il y a des recettes extrêmement précises et compliquées. Mais Brillat-Savarin, la recette la plus compliquée, je pense, qu'il évoque, c'est le faisan à la Sainte-Alliance. Sinon, c'est des choses très simples. Quand il évoque, par exemple, je peux donner un exemple, si vous voulez.
Allez.
Il arrive dans une auberge, il n'y a rien à manger. Il est trop tard, mais il voit deux gigots qui sont en train de tourner devant l'âtre. Alors il dit à l'aubergiste, mais ces gigots, alors vous pouvez pas m'en servir un peu? Ah non, c'est pour des Anglais qui sont dans la maison, dans leur chambre, et je leur fais rôtir et je leur prépare. Alors il dit, vous pouvez m'autoriser à brouiller quelques œufs dans le jus. Bon, bien sûr, ça, il n'y a pas de problème. Donc il lui donne quelques œufs, et pendant qu'il va chercher les œufs, Brillat-Savarin larde de coups de fourchette les deux gigots, tout le jus sort, et il fait une brouillade d'œufs au jus de gigot, qui paraît-il extraordinaire, et les Anglais n'ont plus que du carton.
Et on l'a mis, nous, sur le site de l'émission, bien voilà. Entendu, pour que les auditeurs et les auditrices puissent la reproduire s'ils ont envie.
Tout le monde peut faire ça avec du jus de poulet ou du jus de viande. Après un rôti, vous brouillez des œufs dedans, c'est une merveille.
Vous en avez entendu parler, Pierre Gagnère, de cette recette
Non, je dis que non, je trouve ça génial.
Voilà, on continue, donc c'est le plaisir, vous voyez.
Non, mais est-ce que je peux poser une question
Absolument.
À Monsieur Pitt, est-ce qu'il y a un lien avec Dodin Bouffant Est-ce que Dodin Bouffant était un...
Non. Marcel Rouff.
Rien à voir.
Marcel Rouff, qui est l'auteur de La vie et la passion de Dodin Bouffant, un roman merveilleux, qui était un copain de Kurnonski, a écrit donc dans les années 1930, c'est-à-dire un siècle après la mort de Brillat-Savarin. Mais évidemment, Marcel Rouff s'est inspiré de la vie de Brillat-Savarin, ce célibataire, de ce joyeux célibataire, qui n'est pas resté chaste toute sa vie d'ailleurs. En tout cas, Brillat-Savarin, c'est certain. C'est un lien indirect.
Et Tran Anh-Hung s'est ensuite inspiré librement du roman de Marcel Rouff pour faire son film La Passion de Dodin Bouffant, dont on entendra tout à l'heure un extrait.
Qui est un excellent film.
Revenons à la physiologie du goût, Jean-Robert Pitt, et à l'apport majeur de ce livre. Est-ce qu'il n'est pas aussi, finalement, de faire de la gastronomie un fait social total, de l'inscrire dans le champ de toutes les sciences, de la médecine à la future sociologie?
C'est ça, c'est un hymne d'abord aux cinq sens, et même un sixième sens que Brillat-Savarin appelle le sens génétique. C'est-à-dire donc le faire l'amour. Il est le premier, d'ailleurs, un des premiers à utiliser l'expression faire l'amour dans la physiologie du goût. Pour lui, c'est le sixième sens qui est très important et qui est encouragé par la bonne chair et le bon vin, en particulier par les truffes, qu'il estime une nourriture extrêmement érotique. Et il y a plusieurs développements sur les truffes dans Brillat-Savarin. Il se trouve qu'à l'époque, il y avait beaucoup de truffes dans le Bugey et c'est un très grand amateur.
C'était son terroir.
Donc il y a les six sens qui sont exaltés par Brillat-Savarin, mais il y a aussi toute une partie philosophique et une partie, je dirais, sociologique, parce que pour lui, la bonne chair, ça aide à faire la paix, les gens se parlent, les gens sont heureux, et Brillat-Savarin, c'est un chantre du bonheur de vivre.
La gastronomie est la connaissance raisonnée de tout ce qui a rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit. Son but est de veiller à la conservation des hommes au moyen de la meilleure nourriture possible. C'est elle, à vrai dire, qui fait mouvoir les cultivateurs, les vignerons, les pêcheurs, les chasseurs et la nombreuse famille des cuisiniers, quel que soit le titre ou la qualification sous laquelle ils déguisent leur emploi à la préparation des aliments. La gastronomie régit la vie tout entière, car les pleurs du nouveau-né appellent le sein de sa nourrice et le mourant reçoit encore, avec quelques plaisirs, la potion suprême qu'hélas il ne doit plus digérer. Elle s'occupe aussi de tous les états de la société, car si c'est elle qui dirige les banquets des rois rassemblés, c'est encore elle qui a calculé le nombre de minutes d'ébullition qui est nécessaire pour qu'un œuf soit cuit à point. Le sujet matériel de la gastronomie est tout ce qui peut être mangé. Son but direct, la conservation des individus, et ses moyens d'exécution, la culture qui produit, le commerce qui échange, l'industrie qui prépare, et l'expérience qui invente les moyens de tout disposer pour le meilleur usage. Que pouvait-on refuser à celle qui nous soutient de la naissance au tombeau, qui accroît les délices de l'amour et la confiance de l'amitié, qui désarme la haine, facilite les affaires et nous offre, dans le court trajet de la vie, la seule jouissance qui, n'étant pas suivie de fatigue, nous délasse encore de toutes les autres.
Extrait de Physiologie du goût, lu par Léa Varin. On comprend que Brillat-Savarin, il a révolutionné la manière de penser l'alimentation. Il l'a fait entrer dans la culture française, au même titre que la littérature et la philosophie. Et c'est peut-être ça qui est inoubliable.
C'est tout à fait essentiel. C'est pas lui qui a inventé le mot gastronomie. C'est une invention de Berchoux en 1801. Un poème qui s'appelle La gastronomie, qui est un vieux mot grec exhumé. Mais c'est lui qui en a, je dirais, dressé les bases. Il y a, bien sûr, une haute cuisine à la française depuis le Moyen-Âge, la Renaissance. Louis XIV a fait écrire des livres de cuisine pour modifier complètement l'art de la haute cuisine française. Mais celui qui en fait un art de vivre complet et une philosophie, et pour tous les milieux. C'est pas du tout un livre qui ne vante que la haute cuisine très chère. Il y a aussi des plats extrêmement simples dont il parle. C'est vraiment un hymne à l'art de vivre ensemble dans la joie.
Et les plats, on va en parler évidemment dans une minute, mais juste une dernière question avant de passer au deuxième temps, Jean-Robert Pitte. Il y a une phrase qui est tout le temps citée, tout le temps retenue quand on évoque Bria Savarin et surtout la physiologie du goût, c'est « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ».
Oui, alors ça, c'est un des aphorismes les plus connus. C'est vrai que nous mangeons en fonction de notre psychologie, de notre morale le jour où on a envie de manger, enfin le jour où l'on mange. Il y a vraiment des rapports profonds avec l'être de chacun. Je dirais que parmi les 20 aphorismes du début de la physiologie du goût, celui qui est le plus intéressant, parce qu'il est réellement fondateur de notre modèle français, c'est lorsqu'il dit que dire qu'il ne faut pas changer de vin au cours d'un repas est une hérésie, parce qu'au troisième verre, les papilles se saturent. Donc il faut changer plusieurs fois de vin, et c'est l'inventeur des accords entre les mets et les vins. Et si on extrait de la physiologie du goût tous les passages où il parle des vins, c'est absolument passionnant, parce qu'il n'y a rien de tel auparavant. C'est lui qui a inventé ce qui est une des spécificités de la cuisine française, c'est-à-dire les accords avec les vins.
Qu'en pensez-vous, chef Pierre Gagnère, de ce rapport au vin et au mets? Vous faites ça, vous, dans vos cuisines? On a perdu le chef. On va le retrouver dans un instant. Vous écoutez Les Bonnes Choses, il est 12h16 sur France Culture. Les Bonnes Choses s'intéressent aujourd'hui à la figure, assez méconnue, même si le livre a été inoubliable, de Jean Anthelme Bria Savarin.
Tu connais cette sauce?
Non.
Tu saurais me dire ce qu'il y a dedans?
Du plat de côte, de lard fumé, des poivrons rouges, des champignons, du fenouil, de la tomate, de l'orange, du vin.
Oui, du vin conflant, bravo.
Du persil, thym, laurier, du cumin, du genièvre, des clous de girofle.
Continue.
C'est tout, je crois.
Il y a aussi du paprika, du cognac. Et pour atténuer l'acidité du vin, on ajoute de la gelée de groseille. Et ben voilà. Tu sais faire la sauce bourguignotte. Bravo.
Extrait donc de La Passion de Dodin Bouffant de Tran Anung, librement inspiré du roman de Marcel Rouff, qui s'inspire de l'art de la table selon Bria Savarin, film sur lequel vous avez été consultant, Pierre Gagnère, qu'on a retrouvé. Ah non, ça s'est redéconnecté. Ah bah ça, c'est les joies du direct. Ah, il est là, Pierre Gagnère. Oui, voilà, on vient d'entendre un extrait de La Passion de Dodin Bouffant. Vous avez été consultant sur ce film.
Oui, on a eu la chance de participer à ce film où toute la nourriture est vraie, c'était cuisiné en direct. Et là,
il nous parlait de la sauce bourguignotte avec beaucoup d'ingrédients. Ça se mange quand ça, il y a autant d'ingrédients quand même?
Ah ben, c'est un peu le reflet de ce qu'est ma cuisine. C'est-à-dire que la cuisine, c'est de la chimie. Et l'art de la cuisine, c'est effectivement de créer des goûts. Alors, on peut faire des choses très, très simples en mettant juste une pointe de sel ou une pointe de citron. Mais effectivement, c'est ce qui m'a passionné et qui me passionne encore dans ce métier de cuisinier. La construction des goûts, c'est quelque chose d'infini. Et encore, je suis encore étonné par ce champ des possibles gustatifs. Il y a deux jours, un de mes cuisiniers a broyé du cal frit. Et ce qui est une espèce de chou, ce cale est frit, il est broyé en poudre, et on obtient une poudre qui a une saveur que j'avais jamais goûtée, à la fois amère, à la fois piquante, à la fois poivrée. Et ben c'est un goût que j'ai découvert il y a 3 jours, grâce à un travail d'un de mes chefs qui a eu cette idée. Donc moi, ce que je reviens sur Brillat Savarin. Moi, ce que je trouve fascinant, effectivement, parce que depuis qu'on m'a demandé de participer à cette émission, effectivement, j'ai parcouru le livre, à la fois le livre de Jean Robert et la physiologie du goût. Ce qui est remarquable, c'est de mettre des mots, des émotions et de montrer qu'effectivement, la cuisine est source de joie, de convivialité, de voilà. Et c'est un peu ça, peut-être faire bondir Monsieur Pitt, mais finalement c'est un guémillo de cette époque. Finalement, il a mis des mots sur un, et il en a fait un fait culturel qui est juste cuisiner et manger. Voilà. Donc il y a une forme d'intelligence qui est tout à fait extraordinaire. Et puis il y a une poésie des mots qui est vraiment remarquable. Ouais.
Vous l'avez pas fait bondir, Jean-Robert Pitt, mais effectivement, il est pas complètement d'accord avec cette idée du Guémillo de l'époque.
J'ai beaucoup d'admiration pour Guémillo qui ont mis des mots sur cette révolution culinaire des années 60-70. Donc c'est des gens formidables qui resteront dans l'histoire de la gastronomie française et mondiale. Mais l'équivalent de Guémillo à l'époque de Brillat Savarin, c'est plutôt Grimaud de la Reynière, qui est un critique gastronomique, qui fait venir des plats, qui va dans les restaurants et qui écrit après sur ce qu'il a mangé, qui réunit un jury de gastronomes. Tandis que Brillat Savarin, c'est beaucoup plus décontracté, il cuisine chez lui. Mais je peux rebondir peut-être sur une des choses qu'a dit Pierre Gagnaire. La spécificité de la cuisine de Brillat Savarin, c'est surtout la symphonie des saveurs.
Et c'est une des raisons pour lesquelles on avait aussi pensé au chef Pierre Gagnaire pour participer à cette émission. La symphonie des saveurs, le fait qu'il ajoute beaucoup aussi, plutôt qu'il ne retranche.
Oui, mais symphonie, ça veut dire que pour Brillat Savarin, il n'y a pas besoin forcément de beaucoup d'ingrédients pour faire un bon plat, mais il faut qu'il soit magnifiquement marié entre
harmonieux.
Eux. Et un des plats préférés de Brillat Savarin, dont il parle à plusieurs reprises, ce sont les pâtés. C'est-à-dire des mélanges de viande avec des aromates et cuits en croûte et dans un four spécial. Il se trouve que dans la maison de campagne de Brillat Savarin, qui est à Vieux en Valromey, dans le Bugey, dans l'âtre, il y a un gigantesque âtre pour faire des rôtis. Il adorait les petits oiseaux rôtis, les lièvres rôtis, etc. Mais il y a un four dedans qui n'est pas du tout un four à pain. C'est un petit four et c'est un four à pâté, soit de viande, soit sucrée, donc pâtisserie. Mais ce four à pâté, c'est le cœur de la cuisine de Brillat Savarin. Et il y a un potager aussi, qui est dans son état, dans son jus, dans sa cuisine. Et le potager, ça servait à faire mijoter et à faire monter des sauces au beurre qu'on ne peut pas faire dans l'âtre, sur le feu de bois.
Tout à l'heure, en commençant cette émission, vous avez dit, Jean-Robert Pitt, qu'effectivement, Brillat Savarin n'avait rien à voir avec le fromage, sinon le nom que lui avait donné le fromager en Drouet. Malgré tout, Brillat Savarin aimait beaucoup les fromages. Il écrit « Les fromages tiennent une place importante ». Non, c'est vous qui l'écrivez. « Les fromages tiennent une place importante dans son panthéon gustatif, notamment ceux de sa région natale, le Bugey. »
Alors, il y a surtout, dans les 20 aphorismes qui sont au début de la physiologie du goût, il y a ce magnifique aphorisme que tout le monde connaît. Un repas, un dessert sans fromage est une belle à qui il manque un œil. Le fromage se servait en même temps que les mets sucrés de la fin du repas. En Angleterre, comme vous le savez, on sert dans les bons repas le fromage après les desserts sucrés, mais il y a toujours du fromage, et avec des vins liquoreux. Brillat Savarin, lui, par exemple, un des mariages fromage-vin qu'il vante, c'est le parmesan avec du madère. Et ça, je recommande à tout le monde de faire ça, acheter non pas du parmesan en poudre, mais un morceau de parmesan chez votre fromager, le vieux parmesan, vous le découpez en lichettes, et vous prenez un verre de madère. Malheureusement, en France, c'est plutôt difficile à trouver, on n'en utilise pas, même dans la cuisine, c'est passé de mode, alors que la sauce madère, pour moi, est une merveille absolue, mais le parmesan avec le madère, c'est magnifique.
Un dernier mot, chef Gagnère ?
Ben, je suis d'accord avec, avec M. Pitt. C'est vrai que le Bader était un élément de, quand j'ai démarré dans le métier, il y a donc pas mal d'années, le Bader faisait partie de la trilogie avec le vin blanc, le vin rouge, le cognac, avec il y avait 4-5 alcools qui effectivement étaient également le Marsala, qui était très utilisé. Alors ceci étant en question, Jean-Robert, Madère-Porto, est-ce que pour vous il y a une grande différence?
Ah oui, le Madère a un peu plus d'amertume, et je trouve que par exemple les plats de mon enfance, c'était le jambon sauce Madère avec des épinards et des petits fleurons de pâte feuilletée. C'était une merveille. J'en ai la salive qui me vient à la bouche en parlant de ça.
Allez, merci, un grand merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission qui se poursuit avec la chronique de Maurice Acco. Je cite quand même les deux derniers livres de Pierre Gagnaire, une masterclass littéraire racontée par l'ami Jackie Durand, Pierre Gagnaire en cuisine chez De Noël, et puis Au banquet de la nature avec Pierre Gagnaire chez JBE Books, une conversation à plusieurs autour de vous, Pierre Gagnaire, explorant les liens entre cuisine, monde vivant, création et pensée. Vous voyez, là aussi, ça rejoint quand même ce dont on a parlé avec Bria Savarin. Le dernier livre de Jean-Robert Pitt, notre invité aujourd'hui également, c'est À la table de l'histoire et du monde chez Talendier, paru en 2025. Et à 12h25 sur France Culture, on retrouve le dialogue des cuisines avec Maurice Acco. Bonjour Maurice.
Bonjour Caroline.
Le gratin dauphinois.
Oui, le gratin dauphinois. Parce qu'aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un plat qu'on mentionne pour la première fois à une époque où vécut Brillat Savarin, à la veille de la Révolution française plus précisément. Il s'agit du gratin dauphinois donc. Et au XVIIIe siècle, Grenoble a été le décor d'une journée qui a marqué le début de la Révolution française. Le 7 juin 1788, le peuple se pose sur les toits de la ville pour se dresser contre les soldats venus signifier leur exil aux parlementaires. De leur perchoir, ils jettent des tuiles sur les soldats que le lieutenant-général du Dauphiné rappellera afin d'éviter un véritable massacre. Cet épisode prendra le nom de la journée des tuiles. En juillet de la même année, ce dernier offre un repas à ses officiers dans la ville de Gap et leur sert un plat jusqu'alors méconnu, constitué de pommes de terre cuites au four avec de l'ail et de la crème fraîche. Le terme gratin dauphinois est alors, pour la première fois, consigné par écrit. Ce dernier fit ensuite lentement son trou entre la fin du 19e siècle et le début du 20e, dans des auberges du Vercors d'abord, puis se popularise grâce à des restaurateurs savoyards venus s'installer à Paris. Aujourd'hui, ce plat fait partie des plus populaires du répertoire gastronomique français, et la ville de Grenoble détient naturellement le record du plus grand gratin dauphinois du monde, un gratin de 23 mètres carrés pour plus d'une tonne de pommes de terre et 350 kilos de crème. Je vous donne maintenant ma recette pour faire un gratin dauphinois inratable.
Avec plaisir.
Pas de fromage surtout dans le gratin dauphinois. Commencez par éplucher 7-8 grosses pommes de terre. Pour celle-ci, je vous conseille la variété Agria au Binch. Puis les tailler en tranches assez fines. Une fois taillées, attention à ne surtout pas les rincer ou les conserver dans de l'eau. Ensuite, dans une casserole, faites un mélange à 50-50 de lait entier et de crème liquide. Ajoutez-y quelques branches de thym, une feuille de laurier, 3 gousses d'ail écrasées et salées. Portez le tout à frémissement et pochez-y vos tranches de pommes de terre. Laissez cuire et égouttez les pommes de terre aux 3/4 de la cuisson. La lame du couteau doit s'enfoncer, mais la pomme de terre doit rester légèrement ferme. Disposez les pommes de terre dans un plat à gratin et en parallèle, faites réduire votre mélange de lait et crème jusqu'à ce qu'il ait une texture épaissie. À ce moment, goûtez et ajoutez du sel si nécessaire. Mettez une cuillère de crème épaisse, puis râpez de la noix de muscade. Versez ensuite votre mélange de lait et crème réduite dans le plat à gratin de manière à recouvrir les pommes de terre, puis cuire au four à 180 degrés pendant 25 minutes environ. Si vous souhaitez faire colorer un petit peu plus votre gratin, il faudra passer votre four en mode grill et surveiller. Avec cette recette, vous raterez plus jamais un gratin.
Eh bien, on va l'essayer. La recette, bien sûr, à l'écrit et sur la page du Dialogue des Cuisines et sur celle des Bonnes Choses. À dimanche prochain, Maurice Acco. Toutes les informations, les adresses, les références sont à retrouver sur franceculture.fr. Pour télécharger cette émission et toutes les autres bonnes choses de la chaîne, rendez-vous sur l'application de Radio France. Les bonnes choses ont été préparées avec Léa Varin, à qui l'on doit les lectures, à Jean-Christophe Francis, à la réalisation. À la technique aujourd'hui, c'était Grégory Wallon. Nous vous souhaitons une excellente journée à l'écoute de France Culture.